ramasse un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre ? Oui, mais quel livre ? Eh bien, L'Oiseau des Lyres est là pour vous aider à choisir dans toute la production de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la rentrée littéraire en littérature jeunesse, parce qu'on parle de rentrée littéraire en adulte, mais il faut savoir qu'il y en a aussi une en littérature jeunesse. Et je suis assez contente parce que j'avais prévu de vous parler d'un livre d'Anne-Laure Bondou, L'Aube sera grandiose, un auteur dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas repartir dans tout ce qu'elle a écrit, parce que je crois que j'ai tout aimé. J'ai appris hier qu'elle avait l'équivalent du Goncourt. Disons que cette année, il y a un prix qui a été donné aux romanciers en littérature jeunesse pour un petit peu concurrencer le concours des adultes. Et c'est Anne-Laure Bondou, avec L'Aube sera grandiose, qui a eu ce prix. Donc voilà, simplement montrer que oui, il y a plein de bonnes choses en littérature jeunesse. Donc c'est un livre qui est assez difficile à raconter, parce que si je vous en dis trop, vous connaîtrez l'histoire et n'aurez peut-être plus envie de la lire, ce qui serait vraiment dommage. Donc c'est l'histoire de Nine, qui un jour est attendue à la sortie du lycée, un jour où normalement ça devait être la fête, et sa mère l'embarque pour l'emmener au milieu, dans une baraque, au milieu de nulle part, sans lui demander son avis, sans lui avoir donné la possibilité de se préparer. Inutile de vous dire que Nine n'est pas contente du tout. Et dans cette maison au milieu de nulle part, où elle se rend compte que sa mère a ses habitudes, je vais juste vous présenter le début du livre. Mais Nine cligne des yeux et regarde le plafond comme si on pouvait voir le ciel à travers. « Tu m'as toujours dit que ta mère était morte. » »« Je sais. » Et d'une certaine façon, elle l'était. Nine prend le temps de répéter cette phrase absurde dans sa tête. « D'une certaine façon, elle était morte. » Et donc, Octo, continue Nine, « c'est ton petit frère. » »« Un de mes frères, oui. Orion et lui sont jumeaux. » « Je vois, » murmure Nine. Elle aspire un peu d'air, pas trop, de peur que la tête lui tourne. Chaque mot qu'elle prononce ensuite, chaque syllabe, est articulée avec exagération, comme si elle s'adressait à une vieille dame un peu sourde. Alors, primo, contrairement à ce que tu as toujours prétendu, tu n'es pas fille unique. Non. Deuxio, tu n'es pas orpheline. Non. Et tertio, tu ne t'appelles pas Titania. Pas vraiment. Disons que c'est un nom d'emprunt, un pseudo si tu préfères. Donc, conclut Nine, tout ce que tu m'as raconté sur ta vie jusqu'ici était faux. Tout était bidon, c'est ça ? J'étais obligée de te mentir, explique Titania. Mais il se trouve que depuis hier matin, je ne suis plus obligée. C'est pour ça que nous sommes ici. Nine repousse lentement son assiette. Pour un peu, elle la balancerait contre le mur avec le reste de viande en sauce. Elle respire plusieurs fois en essayant de chasser la boule en travers de la gorge. Cette année, poussée par les copains du club ou du lycée, elle a bu de l'alcool dans certaines soirées. Des trucs forts mélangés à des sodas, des shots de tequila qui lui ont brûlé l'estomac, des Jagger Bombs, je sais pas comment ça se dit, qui ont pulvérisé chaque cellule de sa glotte jusqu'à son cerveau. Jamais de vin. « Je peux en avoir un peu ?» demande-t-elle. Titania observe la bouteille de Château Talbot posée devant elle, puis sa fille, grande et magnifique, assise de l'autre côté de la table. « Je peux en boire un peu avec toi ?» répète Nine en tendant son verre à moutarde. « J'ai besoin d'un remontant, là. » Titania éprouve un bref moment de panique et regrette de ne pas pouvoir déléguer la réponse à quelqu'un d'autre, au père de Nine, par exemple, même si Yann n'a jamais fait preuve de beaucoup d'attention et encore moins d'autorité. « Non, » décide-t-elle. « Mais pourquoi ?» sursaute Nine, scandalisée. « Tu me poses la question ? Je te donne ma réponse. » « La réponse est non. » « Tu me prends pour une gamine, c'est ça ?»« Il y a des façons plus intéressantes de grandir, Bichette. »« Arrête de m'appeler Bichette, c'est complètement niais. » Nine se lève si brusquement qu'elle fait tomber sa chaise. « Tu crois que je vais être saoule avec un verre de vin ?»« Pourquoi ? Tu l'as déjà été ?» Donc, dans cette maison, dans cette baraque, Titania va raconter à sa fille tout ce qu'elle lui a caché depuis qu'elle est née. L'enfance de Titania, l'histoire de sa mère, Rosémée, qui passait d'un prétendant, d'un mari, d'un compagnon à un autre, tous ayant beaucoup aimé et accompagné les enfants. Et pourquoi un jour, elle a dû fuir, elle a rompu tous les ponts avec ses enfants. Ils avaient interdiction de se retrouver. Ils n'avaient qu'une façon de communiquer, de se donner des nouvelles. C'était dans cette vieille baraque où ils avaient trouvé un stratagème pour pouvoir se dire où ils étaient, pour pouvoir se dire qu'ils vivaient encore et qu'ils étaient encore très proches, au moins par la pensée l'un de l'autre. Donc c'est un roman qu'on commence, qu'on ne lâche pas, qui, comme toujours chez Anne-Laure Bondou, est très très bien écrit. C'est une histoire de vie, une histoire de famille, de choses cachées et de rapport à l'argent, parce qu'il y a un moment où ça devient un petit peu drôle, ce rapport à l'argent. Et on a une grosse révolte de Nine à ce moment-là. Donc à lire, et sachez qu'il vient d'avoir un prix. Et on essaiera de remettre sur le blog de l'Oiseau Lire un moment que nous avions partagé à la librairie avec Anne-Laure Bondou. Alors, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, d'Éric Pessan. Éric Pessan, je crois qu'il est dans les Dévoreurs presque tous les ans. Ça, c'est le dernier qui vient d'arriver dans la forêt de Hokkaido. Et c'est un... Bah alors, c'est pareil, hein, c'est un roman qu'on dévore. Entre parenthèses, Éric Pessan sera à Évreux pour des rencontres avec les enfants. Je ne sais plus, deuxième trimestre de après janvier ou février, je ne sais plus très exactement quand. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille en hurlant, mais un cri comme elle n'en a jamais poussé. Toute sa famille est inquiète, étonnée. Elle a fait un cauchemar, un horrible cauchemar. Mais pour elle, finalement, elle va vite se rendre compte que c'est plus qu'un cauchemar. Elle a un don, un petit don. Elle peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et seul son meilleur ami est au courant de cela. Et là, ce don va devenir vite un vrai, vrai cauchemar. Parce qu'elle se retrouve la nuit, lorsqu'elle dort, ou à tout moment de la journée, lorsqu'elle dort, dans la forêt de Hokkaido. Et à ce moment-là, elle accompagne un enfant. Petit garçon de 7-8 ans qui a été abandonné dans la forêt par ses parents et qui essaie de survivre. De survivre difficilement. Quand on a 7-8 ans, qu'on est dans une forêt inhospitalière, qu'on est tout seul, c'est dur. Et chaque fois qu'elle s'endort, elle se retrouve auprès de lui, l'accompagnant, l'aidant à survivre, l'aidant à se nourrir, à boire et... L'enfant, jour après jour, nuit après nuit, va devenir malade, avoir du mal à survivre. Et l'adolescente qui l'accompagne chaque nuit, ça serait bien si je retrouvais son prénom, elle aussi a sa vie qui est complètement transformée. Elle aussi, elle tombe malade. Elle aussi, elle est dans un état déplorable. Et c'est difficile à expliquer aux autres parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Elle va même se retrouver à l'hôpital. On sent que si cet enfant ne s'en sort pas, l'héroïne non plus ne s'en sortira pas. Un petit passage qui va vous montrer comment c'est difficile dans cette forêt. Un chemin s'ouvre à ma gauche. J'ai les yeux embués de larmes et de la morve coule de mon nez. Je fouille mes poches à la recherche d'un mouchoir qui ne s'y trouve pas. J'ai l'impression qu'en coupant par là, je vais gagner du temps. Non loin, la route tourne elle aussi sur la gauche. Je m'engouffre dans la forêt avec prudence. Le sol est plus humide. Des rocs affleurent entre les flaques de boue. Je tente de marcher sans me salir. Mes jambes sont courtes. Je m'énerve d'être aussi petit et aussi lent. En courant vite, j'arriverai à temps au croisement plus haut. Je rattraperai la voiture de mes parents. Ils me verraient dans leur rétroviseur. Ils auraient honte. Ils auraient pitié. Ils seraient saisis par le remords. Ils s'arrêteraient. Ils ouvriraient la portière. Ils sortiraient de la voiture. Ils me prendraient dans leurs bras. Ils s'excuseraient d'avoir voulu se débarrasser de moi. Et la vie redeviendrait ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, douce et rassurante. Mais je cours mal. Je me rends compte que je ne suis pas simplement un garçon. Je suis aussi un petit garçon. J'avance trop lentement. Je n'arrive pas à me laisser aller. C'est comme si une partie de mes mouvements était contrôlée par quelqu'un d'autre. J'évite les flaques. Je prends garde de ne pas crotter mes tennis, alors qu'il faudrait sprinter, m'extraire de cette prudence excessive. Je réalise à cet instant qu'à part le cri qui m'a réveillée ce matin, je n'ai pas ouvert la bouche. Je ne sais pas pourquoi je n'appelle pas. Je ne sais quelle retenue entrave mes mouvements. Si j'étais perdue en forêt, je crois bien que je hurlerais à m'en vider les poumons. Le petit garçon que je deviens dans mes rêves demeure lent et muet. C'est comme s'il m'autorisait par sa peur à sortir de lui. Il garde tout, il contient. Et ce roman a été inspiré par un fait réel des parents, parce que leur gamin était insupportable, l'ont abandonné, pensant le retrouver, faire juste quelques mètres en voiture, revenir le chercher, et quand ils reviennent, l'enfant a disparu, il s'est perdu dans la forêt. La noirceur des couleurs de Martin Blasco à l'école des loisirs. Tiens, oui, j'ai pas présenté les éditeurs. C'est un roman qui arrive demain en librairie et que j'ai lu avant en épreuve non corrigée, c'est-à-dire avec les fautes d'orthographe, mais ça, je suis habituée. Donc, c'est une expérience qui a été tentée par un homme assez horrible. Il a fait enlever 5 bébés. C'est une expérience expérimentale. Ça se passe à Buenos Aires. Et un journaliste va faire une recherche des années plus tard pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on se rend compte que certains des bébés enlevés, donc des années plus tard, sont devenus des jeunes filles, jeunes hommes. Et donc, une jeune fille a été rapportée chez ses parents, ramenée chez ses parents, mais ils ne la reconnaissent pas, d'abord parce que c'était un bébé quand elle est partie, et surtout elle a une attitude absolument bizarre. Elle ne communique pas. Enfin, maintenant, je vais vous lire un passage et vous allez comprendre. Donc c'est le journal de cet homme, Andrew, qui a tenté ses expériences, et ça se passe au début, juste après qu'il ait fait enlever les enfants. Tous les enfants sont installés là, où il se doit. Je les appellerai par un nom de couleur. Je ne veux pas leur donner des noms idiots qui n'auraient pas de sens. Seulement, dans la pratique, nous ne pouvons pas nous référer à eux en les appelant « sujet expérimental 1 » ou « sujet expérimental 2 ». Alors, la petite fille arabe sera azur, l'espagnol vert, l'italien blanc, le français noir et le russe marron. C'est l'enfant français qui connaîtra le sort le plus difficile. C'est pour cela que je l'appelle noir. Si ma sœur était là, elle dirait que je l'ai choisie en raison de mon aversion pour les Français. Ce n'est pas si sûr. C'est le plus costaud. Et j'ai bien peur que, si j'en élisais un autre, il ne soit pas en mesure de résister. La violence fait partie de l'être humain. Elle est en chacun de nous. Pourtant, nous la nions et nous tentons de la dissimuler. Alors qu'en réalité, elle est constituée de notre nature. Chez Noir, cette violence s'exprimera librement et livrera toute sa puissance. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, il leur donne un nom différent. Donc, il va y avoir Noir. On va l'encourager à être violent. On va le frapper. On va le pousser sa violence à l'extrême. Azur sera enfermée dans une pièce toute blanche, où elle sera droguée avec des drogues expérimentales. Ils feront attention de ne pas la tuer, mais ils expérimenteront toutes ces drogues sur elle. Je ne me souviens plus du prénom de la couleur. L'un d'eux sera mis dans une cage dehors avec les chiens. Et on montrera qu'un un enfant mis avec les animaux peut devenir un animal. Un sera élevé normalement. Il sera confié à une nourrice et l'autre, il essaiera d'en faire un être surdoué en lui enseignant, lui enseignant lui-même tout ce qu'un enfant surdoué doit savoir. Cela va durer des années et ils seront libérés, remis dans la nature, dans l'état où on les aura laissés, c'est-à-dire l'un d'eux se comportera comme un petit animal, l'autre sera plein de violence, quand ils seront de jeunes adultes. Et c'est à ce moment-là que le journaliste fait cette enquête pour savoir ce qui s'est passé. C'est un roman qui nous fait frémir. La noirceur des couleurs est aussi la noirceur des sentiments. C'est intéressant, on est pris par l'histoire et je pense que la fin nous surprend un petit peu. À lire. Aïe, aïe. Alors, il y a un superbe album que je ne vous raconterai pas cette fois, mais c'est pas grave, je vous en parlerai une autre fois. La malédiction de l'anneau d'or, de Fred Bernard et François Rocca, et tous les ans, je vous présente leur dernier livre. Donc, c'est qu'une fois de plus. Et si vous voulez savoir pourquoi, dans Anya et le tigre, la vilaine sorcière est devenue comme cela, il faut lire La malédiction de l'anneau d'or. Un livre dont je vous parlerai pas vraiment, parce que tout le monde va vous en parler, c'est La plage dans la nuit, d'Elena Ferrante, qui est l'auteur de L'amie prodigieuse que les adultes s'arrachent. Donc, elle a fait un album pour la jeunesse, une histoire de doudou perdu, une histoire comme on peut en trouver d'autres, mais dont toute la presse va parler parce que c'est un auteur prodigieux en adulte. Et donc, je vais vous laisser. J'ai pas pu présenter tout ce que je voulais, comme d'habitude. N'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque. Là, il y en a, ça va être un peu dur parce qu'ils viennent d'arriver. Et s'achètent en librairie. À bientôt, dans 15 jours, ce sera Gwen.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.